session du Père Marie-Dominique Philippe sur les trois sagesses, le 27 septembre l'an 2000 à Saint-Jodard. Troisième conférence.
La seconde sagesse, c'est la théologie. La théologie, ça ne veut pas dire ce que je vous ai dit hier sur la philosophie, c'est simplement situé. Et je fais la même chose ici pour la théologie. Je voudrais situer. Parce que on ne peut pas tout dire en une heure ou deux heures. Et aujourd'hui, je voudrais situer la théologie. Et voir qu'il y a deux sortes de théologie sagesse. Et non pas quatre. Vous allez voir. Je vous pose des questions comme ça pour que vous soyez attentifs. Dieu veut notre coopération. La foi ne doit pas nous rendre paresseux. La foi doit, au contraire, montrer notre dignité d'enfant de Dieu, d'ami du Christ, et capable de coopérer avec lui. Et cette coopération, elle est multiple. Dans la sagesse, dans la charité, elle est multiple. Vous coopérez avec Dieu dans la charité fraternelle. Parce que par la charité fraternelle, vous êtes une présence du Christ pour vos frères. Une présence de Marie pour vos frères. Et vous coopérez avec Dieu dans le mystère de la foi. Et votre intelligence peut permettre à la foi de se développer, de s'étendre, de progresser. D'avoir une acuité plus grande. Et c'est proprement cette coopération qui est possible parce que Dieu nous a parlé. C'est le mystère de la parole de Dieu qui permet à la théologie d'exister. Dieu aurait pu très bien, il aurait pu très bien nous inspirer de l'intérieur qu'on est enfant de Dieu et que c'est un secret, parce que c'est un vrai secret, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est enfant du Père, c'est le secret suprême. Nous sommes de bonne race. C'est quand même bien de le savoir, hein. Nous sommes de bonne race, nous sommes fils de Dieu, par la grâce. C'est un secret extraordinaire. Nous sommes de la famille de Dieu. Jésus est notre ami, et Jésus est mort pour nous. Pour montrer qu'il nous aimait plus qu'il aimait sa vie temporelle sur la terre. Et qu'il demanderait à sa mère d'être avec lui à la croix pour sauver Jean et pour nous sauver. Nous avons de bonnes relations sur notre carte de visite. ami du Christ. C'est pas mal, hein? On peut tout lui demander. Et il écoute. La vie surnaturelle aurait pu très bien se réaliser uniquement intérieure, parce que c'est une vie intérieure, divine. Nous avons avec Dieu un langage propre, chacun d'entre nous, intime. Avec chacun de nos amis, nous avons un langage propre. Avec Jésus, on a un langage propre et unique et merveilleux. Dieu a voulu nous parler. C'est un fait. Abraham, puisque j'ai le premier, c'est toujours merveilleux de voir ce premier passage où Abraham dit « Dieu m'a dit ». Vous allez trouver votre père maître et dire « Pendant la nuit, Dieu m'a dit ça ». Qu'est-ce qu'il vous dira le père maître, hein ? Vous dira « Est-ce que c'est bien Dieu ? Ce n'est pas un petit rêve ? Ce n'est pas un petit peu vous qui vous exaltez un peu ? Ça devient un petit peu dangereux ?» Et dans la Bible, on dit que Dieu, Abraham dit ça. Je sais bien qu'Abraham n'était pas un novice. C'était un homme très sérieux et un homme important, tellement important que beaucoup disent que c'est un mythe. C'était beau, c'est extraordinaire. Dieu nous a parlé, c'est un fait. Et Dieu nous a parlé, et ça va jusqu'à l'incarnation. Non seulement Dieu nous a parlé, mais Dieu est venu nous rendre visite. À nous, pauvres, pécheurs. Il est venu nous rendre visite en envoyant son Fils. Il a envoyé d'abord des amis qui étaient très bien, les grands prophètes. Ce sont des beaux amis, sont des amis de Dieu. Et puis, il est venu, lui-même, envoyer son Fils. Tout le mystère de l'incarnation, la parole, le Verbe s'est fait chair. Et il a manifesté sa gloire au milieu de nous. Il nous a fait comprendre que nous étions fils de Dieu avec lui. Et il nous a fait comprendre que le mystère de la foi reçu dans notre intelligence permettait à notre foi de se servir de notre intelligence, parce que Dieu a parlé un langage humain. Chose extraordinaire, comme il a pris une nature humaine, avec un corps semblable au nôtre. Dieu a pris une figure, il a pris des gestes, pas seulement la parole. Il a pris notre intelligence. Et par sa parole, il nous demande de coopérer avec lui. Dieu est devenu notre ami, l'ami des hommes, l'ami de notre intelligence. Et avec Jésus, avec sa parole, la foi atteint Dieu parlant, Dieu nous enseignant, Dieu avec nous, Dieu auprès de nous, Dieu pour nous. C'est merveilleux. Tout est transformé par la lumière de foi. Et le Saint-Père, dans son encyclique sur la foi et la raison, nous dit, c'est sûr, notre intelligence doit pouvoir coopérer avec Dieu dans la foi, mais il faut que notre intelligence recherche la vérité. Par la philosophie, puisque la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Mon intelligence toute pure coopère dans chaque acte de foi. Chaque fois que vous faites un acte de foi, vous faites un acte d'intelligence. Et c'est pour ça que la foi nous donne un sens très grand de la noblesse de notre intelligence. Que l'intelligence soit capable d'être le berceau de la foi, de la lumière de Dieu, le lieu où Dieu se rencontre avec nous, ça donne à notre intelligence une très grande dignité. C'est vrai. Je peux, par la parole de Dieu qui m'est adressée, parler à Dieu, rencontrer Dieu, et je sais que Dieu m'écoute. La foi me fait comprendre la dignité et la grandeur de mon intelligence et de mon cœur humain, de ma volonté. Devenir coopérateur de Dieu, devenir l'ami de Dieu. Et on peut alors préciser que mon intelligence pourra être au service de la parole de Dieu. J'ai une intelligence qui cherche la vérité. Et pour chercher la vérité, il faut atteindre la réalité dans ce qu'elle est de plus profond dans son être. Tout l'effort philosophique qui aboutit à la métaphysique obtient par le mystère de la grâce une nouvelle finalité. Mon intelligence ennoblie par la foi est ordonnée à la vision béatifique. Elle est ordonnée non seulement à chercher la vérité, mais elle est ordonnée à voir la vérité, à voir Dieu face à face. Ceci fait comprendre comment la théologie est d'abord et en premier lieu un dialogue avec Dieu qui m'enseigne, qui me montre ce qu'est la vérité en Dieu pour moi. Et ça aboutit à la vision béatifique. En tant que croyant, je sais que je suis fait pour la vision béatifique. C'est ça ma grande finalité chrétienne. Je suis fait pour cela. Et déjà dès maintenant, même si cette connaissance divine embryonnaire est très imparfaite, elle est sous un mode de croyance. C'est le mode le plus imparfait de la vie intellectuelle. Mais c'est le mode aussi qui permet d'atteindre déjà dès maintenant la finalité. Il y a ceci de très extraordinaire dans la foi, c'est que la foi se développe selon un mode très imparfait, la croyance. On croit quand on ne sait pas. On croit pour aller plus vite. On croit pour faire des pas de géant. En croyant, on peut se servir de quelqu'un qui voit. Vous savez, le petit gosse, quand il y a des foules et que le père le prend sur son dos, sur ses épaules, il domine tout. Et c'est comme ça la foi. Notre intelligence n'est pas commode à s'élever. Elle est prise par une quantité de choses, par la foule, par les opinions des gens. Les opinions des gens, c'est un poids terrible. C'est souvent, ça nous empêche. C'est le bonhomme de neige qui grossit, plus on avance, plus grossit. Le monde d'aujourd'hui est en face d'une information telle que les gens peuvent même plus vivre. C'est étouffant. Quand on veut traiter d'un sujet scientifiquement, on vous dit, mais il y a 40 livres à lire. Comment voulez-vous lire ça et rester intelligent encore après? C'est trop lourd. Les opinions des autres. Alors, Jésus nous prend sur son épaule, intérieurement, hein. Il nous prend sur son épaule, et grâce à lui, la vision béatifique devient pour moi une finalité, ma finalité immédiate. Je ne suis pas fait pour entasser les opinions des hommes. Je ne suis pas fait pour être un musée d'opinions. Bien classé. Il y a des gens comme ça, ils savent tout. Et ils ne comprennent rien. C'est vrai, ils n'ont pas le temps de comprendre. L'humanité devient comme ça. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses. Bienheureux Aristote, il n'y avait pas grand-chose à voir lui. Hein. Il y avait quelques petits philosophes. Tandis que nous, l'Olympe philosophique, tous les philosophes, toutes les opinions de ces hommes, la foi nous permet de nous situer dans l'intelligence du Christ et de voir avec le regard de Jésus. C'est merveilleux. Et donc de dépasser toutes ces opinions, de les dépasser et d'atteindre tout de suite ce qui est la perfection ultime de mon intelligence, Dieu. J'atteins Dieu par la foi. Je ne le vois pas, mais je sais que je le verrai. J'ai la certitude que je le verrai. Et une certitude qui dépasse toutes les certitudes humaines. J'ai la certitude que je verrai Dieu, que mon intelligence est faite pour cela. Je savais bien qu'elle était faite pour la vérité, mais la vérité, c'est pas commode, c'est difficile. Puis, plus j'avance, souvent, je suis loin du concret, de la personne humaine. Voir Dieu, c'est voir une personne. Rien n'est plus concret que la vision béatifique. Unique. Une personne. Voir Dieu en lui-même. Plus de l'extérieur, en lui-même. Directement. Mon intelligence est faite pour ça. Alors, ça vaut la peine d'essayer de chercher le cheminement pour rester toujours bien éveillé dans ma foi. Ne pas mettre d'obstacles. Ne pas laisser intervenir trop les opinions des hommes qui risquent toujours d'effacer cette ligne directe vers la vision béatifique. Et j'essaie de comprendre comment Dieu m'enseigne. La révélation, c'est Dieu Père qui enseigne ses petits-enfants. Toute parole divine contient la vérité. Elle est vérité. Et elle conduit à la vérité. C'est le chemin de la vérité. Cette parole divine. Alors, je veux saisir cette parole divine et vraiment saisir en elle tout son poids de vérité, toute sa lumière, dépasser l'écorce, c'est le langage de Catherine de Sienne. Elle compare la parole de Dieu à la noix, vous voyez, les noix fraîches, hein, quand elles sont encore enveloppées de l'étoffe. Et dit quand on prend une noix fraîche sur l'arbre, et qu'on se la saisit directement, et qu'on croit que le fruit c'est ça, c'est amer, hein. La carcasse de la parole de Dieu, parole humaine. Mais on sait qu'il y a un fruit derrière, un fruit excellent, merveilleux. Et je creuse ça, et je veux saisir ce secret dans l'enseignement de Dieu, pas rester seulement à l'écorce. C'est très intéressant l'écorce, parce que les prophètes ont un langage merveilleux, un langage poétique, un langage... Les cantiques des cantiques, hein. C'est beau, c'est beau. Dans Isaïe, il y a des passages merveilleux, avec une force extraordinaire. Mais je veux saisir le secret. La théologie scientifique, c'est de saisir les secrets de la parole de Dieu. D'enlever la gangue, la laisser tomber. C'est pas intéressant la gangue. Ça, c'est le langage humain. Mais Dieu s'est servi du langage humain pour nous donner un fruit divin. Le sens divin de la parole de Dieu. C'est ça que la théologie scientifique de Thomas d'Aquin, parce qu'il n'y a aucune théologie scientifique et aussi pénétrante que celle de Thomas d'Aquin, le Saint-Père le dit. C'est pas moi, c'est le Saint-Père. Donc, vous n'avez pas besoin de choisir, hein. Le Saint-Père a choisi pour vous. Et vous n'avez qu'à être un pieu perroquet, dire oui, c'est vrai, Saint Thomas, ça vaut la peine de perdre son temps à Saint Thomas. Il a supprimé la gangue, Et puis il regarde le fruit. Théologie scientifique, chercher les secrets de la parole de Dieu. Depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et comme je n'ai pas le temps de voir tout ça, je vois tout de suite Jésus. Et je vois Jésus dans son ultime évangile. L'aigle. Saint Jean. Saint Jean, dans son évangile, me donne les secrets de Dieu. Voyez, c'est parce qu'on arrive à la fin, sans doute, hein, si Dieu a permis qu'on s'appelle Saint Jean, c'est parce qu'on arrive à la fin. Alors on n'a pas le temps de dire Abraham, comment a-t-il compris? Et puis Isaac, il a répété, et puis les autres, et puis les prophètes sont venus pour dire, vous êtes des imbéciles, vous comprenez tout matériellement, comprenez tout spirituellement. Et puis comme les prophètes étaient des gens hardis, on les a tués. Parce qu'on n'aime pas de saisir trop vite la vérité. C'est trop lumineux, c'est trop fort. Alors on aime mieux de l'embiner. Enlever soi-même l'écorce. Et il y a une première écorce. Elle est amère, mais elle n'est pas trop dure. Il y a une seconde écorce. Oh, elle est dure, celle-là. Et quoi, très très dur. Puis enfin, il y a le fruit. Il faut encore l'éplucher. Trois écorces. C'est symbolique, évidemment. Catherine de Sienne dit ça d'une façon symbolique, mais c'est peut-être vrai. Il y a peut-être trois écorces avant de saisir le secret, d'aboutir à atteindre vraiment le secret. La parole de Dieu est premièrement un enseignement. Parce que le premier moment du gouvernement de Dieu sur nous, comme nous sommes des êtres intelligents, des êtres spirituels, c'est de coopérer avec Dieu dans la recherche de la vérité. Et la charge de la vérité, c'est l'intelligence qui la saisit. Donc le premier moment de la théologie, c'est la théologie scientifique. Et c'est saint Thomas le premier qui a vu ça avec clarté, avec netteté. Chez les pères de l'Église, c'est mélangé. La gangue n'est pas entièrement tombée. C'est mélangé. Thomas d'Aquin est implacable. Extraordinaire. Il a saisi ça avec une acuité merveilleuse. Il a regardé d'abord, parce que là, l'intelligence pouvait m'aider d'une façon positive. Comment l'homme créé à l'image de Dieu me permet de découvrir la manière d'être de Dieu, la manière de vivre de Dieu, la manière de contempler de Dieu, la manière d'aimer Dieu. C'est toute la recherche de saint Thomas sur Dieu, en lui-même, ce qu'est Dieu. Dieu est simple, totalement simple, omnino simplex, tout à fait simple. C'est merveilleux, parce que affirmer que Dieu est tout à fait simple, omnino simplex, c'est le premier fruit de la théologie scientifique. Et cela reste le premier fruit de la théologie scientifique. Parce que cherchez bien dans l'Écriture, vous verrez jamais qu'il est dit que Dieu est tout à fait simple. Non? Et saint Thomas l'affirme. premier article de la Somme théologique, après avoir vu ce que c'est que la théologie, première conclusion de théologie scientifique. Dieu est tout à fait simple. Si j'arrive à suivre le raisonnement de saint Thomas dans cet article, j'acquiers l'habitus de théologie scientifique. Première conclusion, j'acquiers l'habitus de théologie scientifique. Mais que ce soit sérieux, hein, que ce soit bien fait, que ce soit pas le perroquet qui répète sans rien comprendre du tout, mais qui, chaque fois que saint Thomas écarte des compositions, toutes les compositions possibles, toutes les compositions qui sont en nous, nous sommes des êtres terriblement complexes. Hein. Les anges sont beaucoup plus simples que nous. Vous savez bien, le dialogue avec votre ange gardien, c'est beaucoup plus vite fait qu'avec votre frère qui est à côté. Parce que votre frère qui est à côté de vous, même si la même langue, première multiplicité, les langues sont différentes. Alors, les traductions, les corses, on ne traduit pas les secrets. Il n'y a pas d'herméneutique pour les secrets. Il n'y a pas... Les écorces. Alors, regardez les écorces du Moyen-Âge, les écorces de tous les âges, si vous voulez. C'est un peu pourri, mais ça fait rien. On peut les découvrir, toutes les écorces successives. Puis, le secret. Un secret, on le comprend ou on ne le comprend pas. C'est très simple. Il n'y a pas d'herméneutique pour le secret. Il y a une herméneutique pour les écorces. La langue, première écorce, amère. Il faut apprendre toutes les langues. Tu as parlé araméen. Il n'a pas parlé anglais. Il n'a pas parlé français. Il n'a pas parlé espagnol. C'est embêtant, ça. Il n'est pas moderne. Il a parlé araméen, Jésus. Et puis, très vite, on est passé au grec. Pourquoi ? Ah, parce que le grec était plus étendu que l'araméen. L'araméen, c'est dans un petit trou. Tandis que le grec, oh, c'est pour les gens intelligents. Les Nicodèmes de la terre. Il a parlé latin. Le latin, c'était déjà une langue moins subtile que le grec. Et tu as voulu ça. Et puis maintenant, il parle toutes les langues. Il a fait des progrès, Dieu. Il parle toutes les langues. Et tout ça pour un plus grand amour. L'herméneutique, toujours, chaque fois, la langue, l'écorce. Second mode, il a parlé à telle époque, le langage de telle époque, avec les mœurs de telle époque. C'est vrai, autrement je suis scandalisé, moi. Je suis scandalisé qu'Abraham, qui a reçu une révélation divine, qui est l'ami de Dieu, donne un très bon conseil à son épouse. Tu ne diras pas que tu es mon épouse, tu diras que tu es ma sœur. Un bon mensonge. C'est extraordinaire, ça. Tout de suite. Et il a fait ça parce qu'il fallait sauver la vie de son épouse. Il l'aimait. La façon d'accaparer son épouse pour que le pharaon ne s'en occupe pas, elle était très belle. La beauté est au-dessus de la morale. On sait bien, ça, même de ce temps-là. La beauté, ça passe à travers tout. On en fait vite un transcendantal, ça passe à travers tout, tout de suite, tout. Alors, tu diras que tu es ma sœur, comme ça je serai bien vue une nuit. Il n'y aura pas de jalousie. Tandis que si tu tues mon épouse, j'ai une jalousie. Et qu'est-ce qu'il ferait? Il me tuerait. Comme ça, tu serais libre. C'est extraordinaire. Seconde écorce. La seconde écorce, c'est le point de vue de l'époque. Elle est dure, celle-là. L'écorce, c'est le plus dur. Puis après, il y a encore la langue proprement dite. Ça, c'est beaucoup plus fin. Parce que dans toutes les langues, on trouve ça pour découvrir le secret. Avant de découvrir le secret, il y a le point de vue de la parole, la recherche de vérité. Théologie scientifique. Saint Thomas montre que l'intelligence humaine, grâce à la métaphysique, peut découvrir des notions tout à fait universelles, les transcendentaux. Ils sont convertibles avec l'être. Parce que je ne peux atteindre Dieu que par l'analogie de l'être. Je suis, et Dieu a dit « je suis ». Quand Dieu dit « je suis », le « je suis » de Dieu n'est pas où je suis. Sauf pour Hegel. C'est les modernes qui disent ça. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent dire qu'ils sont Dieu. Non. Dieu dit « je suis » et l'homme dit « je suis ». Descartes a dit « je suis ». Et je dis « je suis ». Mais je sais comment je suis n'est pas du tout celui de Dieu. Ah, l'analogie. Parce que mon « je suis » n'est pas du tout celui de Dieu. Et cependant, il y a quelque chose de commun. Alors, le théologien découvre, c'est pas dans la foi, hein. La foi ne parle pas d'analogie. Dieu n'a jamais parlé d'analogie. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te parle, fais attention. Hein. Tout ce que je te dis, il faut le comprendre d'une façon analogique. Pauvre Abraham, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il n'a rien compris du tout. Il a fallu Thomas d'Aquin parler d'analogie. Comme lui seul en a parlé à la suite d'Aristote. Et il a mis l'analogie au service de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est tout le Deo Uno, Dieu en lui-même. Il est parfait, il est infini. L'infini a tellement grisé les hommes. Dire que Dieu est infini, c'est quand même merveilleux. Pour saint Thomas, Dieu est infini est une conclusion de la simplicité. Mais ça vient après la simplicité. On a été séduit. Et toutes les philosophies ont été séduites après Thomas d'Aquin. Presque toutes. Presque toutes ont été séduites par l'infini de Dieu. Et c'est devenu le premier attribut. C'est très grave. Il y a une première faute, une faute que nous pouvons tous toucher. Pour Thomas d'Aquin, la première conclusion de théologie scientifique, Dieu est tout à fait saint. Pour Don Scott, la première conclusion scientifique, Dieu est infini. Quelle différence entre la simplicité et l'infini? La simplicité, on rejette tout ce qui est composé. Infini, on fait l'amalgame. Puisqu'il est infini, tout regarde Dieu. L'amalgame, on prend tout. C'est très curieux, hein, que c'est dans cette première conclusion de théologie scientifique qu'on voit tout de suite la déviation, la séduction de l'infini. Pourquoi ? Parce que en mathématiques, l'infini, c'est l'absolu. Vous voyez l'intelligence mathématique. Pour un mathématicien, dites toujours Dieu est infini. Ne dites pas Dieu est simple. Dieu est infini. Mais dans la vérité, dites que Dieu est tout à fait simple. C'est la première conclusion scientifique. Et on conclut parce qu'il est tout à fait simple, il est infini. Il n'a pas de limite. Infini, négatif. Il n'a pas de limite. S'il n'a pas de limite, il prend tout. Mais pour tout prendre, il faut purifier. Le mal ne pénètre pas en Dieu. Tout ce qui est imparfait ne pénètre pas en Dieu. Ne pénètre en Dieu que ce qui est convertible avec l'être. Et par là est analogique. C'est merveilleux la simplicité avec laquelle saint Thomas regarde Dieu. Dieu est tout à fait simple. Bon. La première coopération, c'est pour ça que saint Thomas dit que la somme, c'est pour les débutants. Et les débutants au plan divin sont déjà sages. Quand saint Thomas dit Dieu est tout à fait simple, bien c'est une conclusion scientifique et de sagesse. Parce que Dieu est le point de départ de tout, il est créateur. Et Dieu est la fin de tout. Le commencement et la fin s'identifient en Dieu. Et quand je crois, je participe à l'intelligence de Dieu. Je participe donc à ce mystère que la fin et le principe sont un. Et c'est vrai, dire que Dieu est absolument simple, omnino simplex, je ne peux le comprendre qu'en contemplant Dieu. Et je peux contempler Dieu. La théologie, dès sa première conclusion, est sagesse. Et sa dernière conclusion, ce sera de dire, le Dieu qui me révèle ce qu'il est, c'est le Dieu trine. Et quel est le premier dans la Trinité ? C'est le Père. Dieu est tout à fait simple. Dieu est Père. Il y a un lien entre la simplicité et la paternité. Dieu est Père, Père de son Fils, Père de l'Esprit Saint, Père de chacun d'entre nous, parce qu'il est Père de Jésus. et le fruit de sa paternité, le plus grand, le plus beau, c'est la maternité divine. Parce que la maternité divine unit l'infinie bonté de Dieu avec la pauvreté de la créature. Donc, première coopération avec Dieu, recherche de la vérité. Et la théologie scientifique de saint Thomas, c'est la recherche de la vérité. Et cette science est sagesse. Elle assume tous les raisonnements. Elle est sagesse. Elle réclame la contemplation. La théologie scientifique réclame la contemplation. Autrement, je resterai dans la logique. Et je n'ai pas le droit de rester dans la logique parce que la foi atteint Dieu. Et que Dieu, je ne peux que le contempler. Je ne peux pas l'analyser. Je suis l'ami de Dieu, je coopère avec Dieu grâce à la parole divine. Or, cette parole de Dieu, elle est d'abord un enseignement. Mais elle est plus qu'un enseignement, parce que c'est le langage d'un père. Et le langage d'un père, c'est pas seulement enseigner, c'est conduire à la béatitude. Par l'amour. Parce que lorsqu'il s'agit de Dieu, on est plus proche de Dieu, ici sur terre, par l'amour que par l'intelligence. Il faut toujours bien comprendre ce que saint Thomas dit en philosophe. Et en philosophe sapientiel. Un philosophe qui pose un axiome capital au point de vue de l'éducation de notre intelligence. Toutes les réalités qui sont supérieures à moi, mon amour pour elles me permet d'être plus proche d'elles que par l'analyse scientifique. Toutes les réalités qui sont inférieures à moi, il vaut mieux les connaître que les aimer. Parce qu'elles sont inférieures à moi. Tandis que toutes les réalités qui sont supérieures à moi, Dieu et le prochain. Toutes les réalités qui sont supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est très simple, un principe d'éducation merveilleux. Quand vous aurez fait une bonne philosophie, vous direz ça, étant convaincu de la chose. Et c'est notre principe d'éducation, à la suite de Thomas d'Aquin. C'est un examen de conscience merveilleux, ça. C'est extraordinaire. Comme examen de conscience, pour garder une intelligence pure, pour garder un cœur pur, pour vivre de la béatitude du bienheureux, les cœurs purs. C'est ça qu'il faut appliquer. Alors, la parole de Dieu, qui prend une forme humaine, par le langage humain et par, la parole, par le langage de l'homme, est fait pour me conduire à la vision béatifique. Dieu me conduit comme un père. Et Dieu aime la coopération comme un père. La parole de Dieu m'instruit souverainement parce qu'elle m'apprend à connaître Dieu. Mais la parole de Dieu m'est donnée à travers une histoire. Elle m'est donnée à travers l'histoire sainte. Elle m'est donnée à l'intérieur de l'Église. Et la parole de Dieu implique en elle un secret. Le dernier secret de la parole de Dieu, un secret d'amour. Parce que c'est un père qui parle à son enfant. Parce que c'est un ami qui parle à son ami. Parce que c'est un époux qui parle à son épouse. La parole de Dieu contient un secret. Vous avez donc quatre modalités de la théologie. La théologie scientifique étudie l'intelligibilité de la parole de Dieu. La théologie biblique étudie comment la parole de Dieu m'est donnée à travers un peuple, histoire sainte. Théologie de l'Église, la parole de Dieu m'est donnée à travers ce milieu particulier qu'est l'Église. Et enfin, la parole de Dieu est un secret, théologie mystique. Je découvre le secret, au-delà de l'intelligibilité. Pour tout le monde, je découvre ce secret pour moi et ce secret pour les autres. C'est la théologie mystique. La théologie scientifique et sagesse. La théologie mystique et sagesse. La théologie biblique de la parole de Dieu. La théologie de l'Église ne sont pas sagesse. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu m'est donnée à travers une histoire. Or, l'histoire sainte, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Donc, je n'en connais pas la fin. Et je ne connais pas non plus la fin quand le Christ reviendra. Le royaume de Dieu n'est pas ce monde. Et pourtant, le royaume de Dieu est au plus intime de mon cœur. Dans cette contemplation de Dieu, par la parole de Dieu, dans cette intimité, cette contemplation de Dieu, en saisissant le secret de la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a donc quatre manières de coopérer avec Dieu. Quatre manières. Deux qui vont jusqu'au bout, qui sont des sagesses. Deux qui sont des dispositions très utile, ou très souvent, surtout aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise. Théologie mystique, théologie veut dire théologie biblique, on l'aime toujours. Théologie d'église, on l'aime moins, mais on l'aime tout de même. Théologie mystique, elle est très peu avancée. Théologie scientifique, grâce à Thomas d'Aquin, elle existe, mais peu, très peu, la saisissent, vraiment. On s'est rabattu sur la théologie biblique qui n'est pas une sagesse. C'est la théologie d'Église qui n'est pas une sagesse. Qui sont très importantes, très utiles, mais qui ne sont pas des sagesses. Les deux sagesses, le point de départ, l'enseignement qu'il m'est donné est sapientiel. Sous un mode plus humain, mais sapientiel. Les sagesses mystiques, sous un mode plus affectif, le don du Saint-Esprit, le don de sagesse, qui m'exige d'aller jusqu'au bout du secret. Le secret, c'est une connaissance personnelle. C'est entre deux personnes qu'il y a un secret. C'est donc dans la très sainte Trinité. Puisque l'Église est trinitaire, nécessairement, elle implique des secrets. Vous voyez la comparaison, Catherine de Sienne, de la noix pour la parole de Dieu, elle est très intéressante. Catherine de Sienne est toujours considérée chez les dominicains comme quelqu'un qui oblige le théologien scientifique d'aller jusqu'au bout dans une théologie mystique. Première, la langue. La seconde, l'écorce. La troisième, la plume. Ce que vous devez dépasser pour atteindre l'intelligibilité divine de la parole divine. Et dans l'intelligibilité divine de la parole divine, dernier moment, on désire atteindre le secret. Ce qui ne peut s'atteindre qu'à travers l'amour et le don de sagesse. Il faut bien distinguer la vie mystique et la théologie mystique. On verra ça cet après-midi.